les podcasts de Radio Courtoisie. La chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline, la menace de guerre intérieure en France.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, voici une nouvelle chronique réactionnaire. Je suis Yves-Marie Adeline et aujourd'hui, cette semaine, je vais vous parler de la menace d'une guerre intérieure en France. Je prétends être l'auteur qui a popularisé le concept de guerre intérieure, de préférence à celui de guerre civile. En publiant dès 2017, il y a bientôt 10 ans, un livre traitant de cette question. Il vous suffira de vous y reporter en le cherchant sur Internet. Et je rappelle donc pourquoi j'ai voulu opérer cette distinction. Ce qui permet d'identifier une communauté, c'est une mémoire commune, presque des réflexes d'appartenance. Des dissensions peuvent s'y produire, des guerres sociales, des guerres civiles, mais précisément ces dissensions se produisent au nom d'une idée que chacun se fait de ce que sa nation devrait être. Pour ne pas avoir à remonter trop loin dans le temps, arrêtons-nous à la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939. Les deux camps luttaient pour ce que devait être ou devenir l'Espagne à leurs yeux. Mais ils étaient l'un et l'autre purement espagnols. Or, pour la plupart des musulmans vivant en France ou ailleurs en Europe, cette question n'a pas de sens. Quand bien même la majorité vit-elle heureusement tranquille, et en dépit de l'artifice bureaucratique des naturalisations massives qui ne doivent qu'au pouvoir arbitraire de la République, le sentiment d'appartenance, d'adhésion à l'histoire de France n'existe pas. Les grandes manifestations publiques célébrant la Révolution ou les victoires des deux guerres mondiales n'ont forcément aucun sens auprès d'une population d'abord sensible à l'histoire du monde arabo-musulman. Dans les écoles où les classes sont peuplées d'une majorité d'enfants musulmans, la propagation de la mémoire collective n'est plus possible. Pour citer un exemple parmi les plus vifs, le chahut s'installe, ou dans le meilleur des cas, un silence hostile, quand une institutrice souhaite évoquer devant eux la persécution des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Eux dont les antennes paraboliques tournent le dos à la France et captent les télévisions arabes sont préalablement nourris des images du conflit israélo-arabe, tournées non pas du côté israélien mais du côté arabe. Ainsi, le sentiment que leur inspire le génocide juif est-il à l'opposé de ce que souhaiterait l'école de la République. Mais là encore, l'aveuglement institutionnel conduit à interpréter cette hostilité comme une résurgence d'un antisémitisme français, tandis qu'il s'agit d'un antisionisme arabe, quand bien même une alliance entre l'islamisme et la gauche a permis de produire un antisionisme de gauche. Cet aveuglement se retrouve sous une autre forme à propos des terroristes musulmans. Jusqu'à présent, la France, comme d'autres pays occidentaux, n'a eu affaire qu'à des attentats terroristes. Certains ont pu être spectaculaires, comme le mitraillage d'une foule parisienne en novembre 2015 au Bataclan. Mais ce ne sont encore que des actes de terrorisme. Par nature, une arme du faible au fort. On terrorise plus fort que soi pour obtenir de lui ce qu'on ne pourrait pas obtenir par un affrontement direct. Dans ce contexte, le président Hollande avait déclaré que la France était en guerre et à l'instar de l'ancien président américain George Walker Bush, il prétendait faire, je cite, « la guerre contre le terrorisme ». Soucieux de ne pas stigmatiser les populations musulmanes pacifiques ni incommoder nos partenaires commerciaux du pétrole, il s'est contenté de désigner son ennemi par un mot flou, le terrorisme. Mais le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est une manière de combattre. C'est comme si on avait dit qu'on ferait la guerre à l'embuscade. Pour faire la guerre, il faut savoir contre qui se battre. Mais précisément, contre qui ? Durant la guerre au Sud-Vietnam, les terroristes frappaient en sortant soudainement d'une foule anonyme, majoritairement pro-américaine, à l'instar de ce qui s'était passé en Algérie française. S'ensuivaient alors des représailles qui souvent pouvaient atteindre des innocents, et c'est précisément ce que cherchent les terroristes, susciter un enchaînement, provocation, répression, révolution. Chargé de prévenir un embrasement général, comme on en a vu se produire, heureusement non armé, dans les banlieues en novembre 2005, comment la police peut-elle prévoir qu'un paisible chauffeur de bus de la RATP se transformera en musulman tueur ? On raconte qu'un des tueurs de Charlie Hebdo avait été reçu 3 ans plus tôt à l'Élysée parmi une petite délégation d'immigrés regardés comme exemplaires pour la réussite de leur intégration. Le terrorisme musulman espère conduire la population native à se méfier des innombrables musulmans qu'elle croise de façon à ce que la guerre éclate enfin entre les deux communautés. Il semble qu'au point où nous en sommes arrivés, la question n'est plus de savoir si ce terrorisme se transformera en guerre, mais quand ? Nous avons évoqué plus haut les émeutes de novembre 2005. Quelques milliers de musulmans, en particulier dans la banlieue parisienne, ont réussi à tenir en haleine pendant tout un mois les forces de police, incendiant les voitures, les autobus, les bâtiments publics. Bref, heureusement, si l'on peut dire, les trafiquants de drogue, qui n'ont aucun intérêt à ce que les troubles se prolongent, ont pu les arrêter, voire les empêcher totalement, comme à Marseille, principale ville de la drogue. Heureusement aussi, la France dispose de forces de sécurité entraînées à ce genre d'événements, ce qui leur permet d'éviter de passer au coup de feu. Les cas de tirs à balles réelles provenant de ces émeutiers se sont présentés, mais sont demeurés rares et la police a pu faire son travail. Plusieurs émeutes dans le monde ont pu tourner en révolution uniquement parce que la police locale ne connaissait pas d'autre moyen de contenir une foule que de tirer sur elle, aggravant donc la situation au lieu de l'apaiser. En France, en principe, la police peut prévenir cette aggravation, mais pour autant que l'émeute ne soit pas armée, que serait-il si elle était armée ? Si nous l'avons vu presque déborder en novembre 2005 par des émeutes d'adolescents qui n'osaient pas agir en plein jour et attendaient la nuit pour entrer en action, comment ferait-elle face à des mouvements plus violents ? En 2005, ce qui empêchait la police de prévenir dans la journée les incidents de la nuit suivante était que les émeutiers se fondaient parfaitement dans la population. Comme au Sud-Vietnam, impossible de deviner à midi qui, de Mustapha, de Mohamed, de Selim ou de Malik, deviendrait à minuit le délinquant. Impossible de soupçonner toute une population. C'est le syndrome sud-vietnamien, algérien, irakien, afghan, etc. Le scénario du pire est-il possible ? C'est celui de l'essayiste et romancier Laurent Oberton dans son Guérilla, ce qui évidemment ne suffit pas à répondre à cette question. Ce qui constitue un élément de réponse tient à ce que la population musulmane est aujourd'hui bien trop nombreuse pour être intégrée. Pour donner une comparaison, les Francs qui envahirent la Gaule romaine au 5e siècle ne représentèrent jamais plus de 5% de la population, tandis que les musulmans pèsent aujourd'hui au moins le triple. Outre cet effet de seuil démographique, leur acclimatation est rendue impossible par deux autres facteurs. D'une part, la conscience européenne est trop malade pour s'imposer à eux, ou seulement se donner en exemple. D'autre part, la crise économique menace de s'aggraver, creusant un fossé désormais infranchissable entre des classes de riches qui s'enrichissent toujours plus, des classes moyennes qui dévissent, et des pauvres qui, pour une durée indéfinie et jusqu'à un avenir invisible, sont jetés au bord du chemin. Pour répondre au désarroi économique, le réflexe du musulman privé d'emploi, se voyant marginalisé pour sa vie entière, est de se réfugier dans les mythes fondateurs de sa culture et ce qu'ils offrent de respectable, la conscience religieuse, la foi, les horizons d'un au-delà. Parfois aussi ce qu'ils offrent d'onirique, non seulement le paradis après la mort, mais les jouissances que les musulmans, du moins masculins, y trouveront, surtout s'ils acceptent le risque de mourir pour, en échange, tuer le plus grand nombre possible d'infidèles ou au moins attenté au grand symbole des peuples mécréants. La guerre semble inévitable à cause de cette combinaison de facteurs défavorables au maintien d'une cohabitation pacifique. Cette menace est généralement qualifiée de guerre civile, mais je le répète, et je l'écrivais il y a 10 ans, le mot est imprécis. D'un côté, on ne peut pas accepter ce terme, car une guerre civile désignerait un affrontement entre Français, au même titre que la guerre civile espagnole de 1936-39, tandis qu'ici, il s'agirait plutôt d'une guerre intérieure, deux populations étrangères l'une à l'autre qui s'affrontent à l'intérieur d'un territoire habité en commun. Nous ne tenons pas compte, évidemment, du fait que nombre de musulmans ont reçu la nationalité française au bon plaisir des autorités, puisque de toute évidence, cet artifice administratif n'a pas suffi à les franciser pour la plupart. Mais d'un autre côté, il s'agira également d'une guerre civile, si du moins les choses demeurent en leur état actuel, car il apparaît que le mouvement d'islamisation de la société française, comme toujours dans l'histoire de la conquête musulmane, bénéficie des divisions profondes au sein de la population autochtone. Deux siècles de luttes intérieures contre l'Église d'abord, puis contre le christianisme en général, ont produit une haine sourde de ses propres racines, aussi bien parmi la population originelle que surtout de la part des élites dirigeantes. On constate par exemple que la loi de 1905, interdisant à la République de financer les cultes en général, est aujourd'hui contournée par la République elle-même pour financer officieusement le culte musulman, en maquillant ses activités religieuses en activités culturelles. On rencontre ici les limites de la laïcité républicaine. Historiquement, il s'est agi de saper l'ordre religieux et politique ancien, l'alliance du trône et de l'autel, conduisant à ce que, lorsque le trône a été abattu, le clergé a été longtemps hostile aux nouvelles institutions révolutionnaires. Mais dès lors qu'une religion fondamentalement hostile au christianisme s'est annoncée sur le territoire, les institutions républicaines l'ont regardée comme une alliée objective, capable d'achever son travail de déracinement historique, de façon à ce que ne demeurent plus que les bases nouvelles portées par la Révolution. Il est probable que la manœuvre soit susceptible de se retourner contre la République elle-même. Le premier exemple de ce marché de dupes s'est trouvé dès la première révolution islamique en Iran en 1979, quand les communistes ont entrepris de renverser la monarchie au coude à coude avec les islamistes, puis se sont fait balayer par eux sitôt le roi renversé. Toujours est-il qu'une partie non négligeable de la société européenne, et surtout son élite médiatique, culturelle, morale et politique, se rangent aujourd'hui du côté, sinon des islamistes, du moins de l'islam, dans leur souci de confiner l'Europe ancienne dans les poubelles de l'histoire. La propagande réussit à faire croire que s'oppose un islam modéré, supposé authentique, et l'islam proprement dit. Pourtant, tout dans le Coran et dans la tradition islamique penche du côté de ce qu'on regarde aujourd'hui comme un radicalisme musulman. Il suffit de le lire pour le savoir. Mais précisément, ceux qui ne veulent pas le savoir s'abstiennent volontairement de le lire. La seule vérité est que l'islam dans le monde a connu des périodes de radicalité moindre et que périodiquement, des mouvements radicaux ont ressurgi pour lui faire retrouver sa pureté originelle, les Almohades, les Almoravides, les Fatimides, etc. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, y compris dans les monarchies arabes, qui pourtant financent largement l'islamisation de l'Occident, tout en se trouvant menacés en leur sein par des mouvements plus extrémistes encore, comme en Arabie Saoudite. La guerre obligera donc les Français résistants à se battre sur deux fronts intérieurs, contre les combattants musulmans et contre leurs auxiliaires français. Comme toute guerre interne, celle qui viendra sera d'autant plus sanglante qu'elle sera haineuse et surtout se fera dans une confusion extrême, personne n'étant tout à fait sûr de pouvoir identifier son ennemi. Mais à la différence des guerres du passé, le dénouement de celle-ci, en principe, peut être connu d'avance. Radicaux ou modérés, les islamistes espèrent, sinon toujours par la violence, au moins par la submersion démographique, instaurer un jour lointain un pouvoir islamique au sommet des institutions civiles. C'est le fantasme d'un autre romancier, Houellebecq, avec son roman « Soumission ». Or, ce scénario est impossible. Sans doute pourrons-nous voir des villes passer à l'islam, là où la population musulmane sera devenue quasiment unique, comme au Kosovo, les Albanais qui peu à peu ont fini par représentés sur place 90% de la population et ont logiquement réclamé, puis obtenu, leur détachement de la Serbie. Aujourd'hui, des sources officieuses non autorisées prétendent que les musulmans sont devenus majoritaires à Marseille. On peut imaginer que dans plusieurs décennies, leur majorité soit devenue telle et leur désir de vivre d'une manière officiellement musulmane devenu tellement impérieux que la question se posera de savoir s'ils demeurent dans la communauté nationale, à laquelle ils n'auront jamais appartenu par le cœur. Ou s'ils s'en détachent d'une manière ou d'une autre, par confédéralisme, par simple association ou par prise d'indépendance. On peut imaginer ce scénario si les Français le laissent se produire, mais il est impossible que l'État français lui-même passe à l'islam. La raison en est que la France dispose du troisième arsenal nucléaire mondial, susceptible d'anéantir n'importe quel pays du monde en quelques minutes, ne serait-ce que par un seul de ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Une république française islamique est inacceptable par les grandes puissances d'aujourd'hui parce que naturellement, on imagine que ses dirigeants seraient tentés d'anéantir illico Israël. Même la menace d'une destruction en retour du sol français ne pourrait pas retenir son occupant islamique qui n'a pas de racines dans ce pays. C'est donc avant que ne se produise l'irréparable, c'est avant la conquête de la république par les islamistes que les grandes puissances interviendraient, au besoin, avec la dernière rigueur. Leur force de frappe, acquise en un autre temps, celui de la souveraineté nationale, sauverait à la dernière heure les Français de leur propre résignation, ce qui n'éloigne en rien le lot d'épreuves qui les attendent.
C'était la chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline vers la menace de guerre intérieure en France. Les podcasts de Radio Courtoisie. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.